Bonjour à chacun. Vous écoutez certainement la radio, vous regardez la télé, les nouvelles se suivent et se ressemblent. On vit dans un monde profondément marqué par le péché, profondément déréglé, habité par des hommes et des femmes comme nous, profondément déréglé aussi par le péché. Et le Seigneur, quand il a prié son Père, juste avant de mourir, il a présenté à son Père ses disciples et il leur a dit, ils sont dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du monde. Et la pensée qui guide le message de ce matin, c'est celle-ci. Comment être équipé pour vivre dans le monde sans être du monde, sans être emporté par le courant du monde, sans penser comme le monde pense, sans agir comme le monde agit. Et c'est en regardant à Jésus lui-même que nous sommes en mesure de pouvoir relever ce défi. Jésus, il a vécu dans ce monde. Il a été confronté à toutes sortes de situations délicates, ambiguës, même piégées intentionnellement contre lui. Il a fait face aux religieux et aux sans-dieux, aux riches et aux pauvres, aux bien portants et aux malades, aux intelligents et aux simples, aux peuples et aux chefs, à des gens moraux et à d'autres foncièrement immoraux, à des gens sincères et d'autres fourbes et perfides. Et chaque fois qu'on le voit dans ces épisodes de l'Évangile, on le sent égal à lui-même, gardant la maîtrise de ses paroles et de ses actes. Et le texte qui nous concerne aujourd'hui, va nous livrer quelques secrets sur cette manière d'être dans le monde sans être du monde. Alors on va lire dans Luc au chapitre 3, à partir du verset 21. Il y a trois sections dans ce texte d'aujourd'hui. L'une qui porte sur le baptême, l'autre sur la généalogie de Jésus, et la troisième sur la tentation de Jésus. Alors au verset 21, Luc 2, 21, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matha, et puis je vous fais grâce de toute cette liste de noms, mais on reprend au milieu du verset 31, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe. Puis un peu plus loin, à la fin du verset 33, 34, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Puis au verset 36, fils de Noé. Puis au verset 38, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Puis au chapitre 4, les 11, les 13, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus a environ 30 ans. On ne sait quasiment rien de ces 30 premières années de vie de Jésus, sinon, évidemment, sa naissance, bien détaillée, est hormis aussi un épisode dans le temple de Jérusalem lorsqu'il avait 12 ans. Ça peut se résumer, cette vie, par un verset à la fin du chapitre 2. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Témoignage très simple, mais aussi magnifique qu'il est simple, de nos enfants, de nos petits-enfants. Pouvoir dire ceci, ce serait magnifique. Ce récit nous fait comprendre dans quelle disposition le Seigneur va aborder son ministère public. Jusque-là, il a vécu probablement dans sa famille, à Nazareth. Il a exercé son métier. Son père était charpentier. On peut imaginer que le fils suivait les traces de son père. Et il va, en quelque sorte, se jeter à l'eau. Et là, on est juste à la période de transition. La charnière, une charnière qui va être courte, elle va durer une quarantaine de jours, mais une quarantaine de jours d'une grande importance parce que les bases de son ministère à venir vont être posées. Pendant les 3 années qui vont suivre de son ministère, ça va être un véritable tourbillon dans lequel Jésus, on le voit pressé par toutes sortes d'événements. Il va être sollicité par ses partisans qui en veulent toujours plus de sa part. Et puis, il va être contrecarré par ses ennemis à tel point qu'il dira que le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, n'a même pas un lieu où reposer sa tête. Ce temps, le temps de son baptême et de sa tentation apparaît comme une ultime préparation avant le grand saut, avant qu'il se révèle au monde et devienne connu de tous. Alors, je ne prends pas les 3 sections dans l'ordre, j'aimerais d'abord parler de la généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus inscrit Jésus dans l'histoire des hommes. Oui, Jésus vient bien d'ici. Ses ancêtres sont parmi nous. Il est véritablement homme. Il a connu nos joies, nos peines, nos forces, nos faiblesses, nos combats et nos tentations, sans toutefois commettre le péché, ainsi qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux. Et on remarque en plus, la lecture que j'ai faite de la généalogie met l'accent sur certains de ses ancêtres qui ont été particulièrement célèbres. Sa généalogie apparaît, la généalogie de Jésus apparaît comme une récapitulation de toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple tout au long de l'histoire et qui d'ailleurs précisément vont se réaliser au travers de la personne de Jésus. La généalogie de Jésus passe par David. David, le grand roi d'Israël qui faisait sa fierté, et les Juifs attendaient le successeur de David, annoncé par les prophètes et les psaumes. Le Messie, le roi et Jésus allait lui-même commencer son ministère en disant « Repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché. » Jésus-Christ se présente lui-même comme le Messie qui réalise cette attente d'un successeur à David. Et puis, la généalogie de Jésus passe par Abraham. Abraham, à qui des promesses ont été faites. Il est dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. » Et cette promesse semble avoir mis du temps à éclore. Mais Jésus, tout bébé, quand il est reçu dans les bras par le vieux Siméon, Siméon s'exprime en disant « Voilà celui qui est destiné à être la lumière des nations, la réalisation de cette promesse faite à Abraham. » Et puis la généalogie, elle remonte jusqu'à Adam. Adam avait reçu la promesse que parmi, vous savez que Adam a été tenté, a commis le péché, s'est détourné de Dieu parce qu'il a prêté l'oreille à la voix du diable, et la mort a résulté de cette volonté de l'homme de vivre de façon autonome, sans Dieu dans sa vie. Et Jésus, et Dieu, avait fait cette promesse à Adam qu'un des descendants d'Ève et Adam aurait un jour la victoire sur Satan, au prix, certes, d'une blessure. Mais voici Jésus, présenté plus loin dans le Nouveau Testament comme le second Adam, celui qui va ouvrir une nouvelle lignée, celui qui va prendre la victoire sur le diable et inaugurer une lignée d'hommes nouveaux destinés à vivre une vie nouvelle. Donc, une généalogie qui passe par nombre d'hommes importants dans l'histoire d'Israël et qui récapitule, je dis bien, toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple. Mais elle passe aussi par bien des noms inconnus dont je vous ai fait grâce de la lecture, ou plutôt c'est vous qui m'avez fait grâce de la lecture, qui montrent que l'humanité de Jésus embrasse toute la condition humaine. Il est l'homme par excellence, le fils de l'homme, comme il aime se nommer, l'homme véritable dans toute l'acception du terme, l'homme dont l'ancrage est en Dieu. Et d'ailleurs, il est remarquable que cette généalogie remonte jusqu'à Adam, et Adam, on monte encore d'un cran, il est dit Adam, fils de Dieu. Et j'aimerais dire que pour chacun de nous, aussi. Il est important que nous soyons enracinés dans la vie et dans l'histoire, que nous sachions d'où nous venons et où nous allons, que nous prenions conscience que nous aussi, à notre modeste échelle, nous faisons partie de ce grand plan de Dieu, héritiers d'Adam, d'Abraham, de David, de Jésus, de tous ces hommes au cours de l'histoire qui ont désiré être fidèles au Seigneur et dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Ces hommes qui ont été des porteurs, des passeurs de promesses que Dieu veut réaliser dans nos vies aujourd'hui. Jésus était la réalisation de toutes ces promesses. Nous aussi, nous avons une belle, une grande généalogie qui nous enracine non seulement dans ce monde, mais qui nous enrichit, nous enracine aussi dans la filiation divine. Et le Seigneur veut réaliser à notre échelle, bien sûr, des promesses de grâce envers chacun de nous. Nous avons notre place et notre rôle dans le monde et dans l'histoire. Soyons conscients que nous ne sommes pas un humain de plus parmi 7 milliards, mais nous avons, chacun de nous, une place, un rôle, et le regard du Seigneur qui se porte sur nous et qui connaît chacun de nous. Parlons maintenant du baptême de Jésus. On l'a vu la semaine dernière, Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Que signifiait le baptême pour ceux qui entraient dans l'eau? Eh bien, ce baptême était dit baptême de repentance. Il signifiait que l'homme pécheur s'humiliait devant Dieu, qu'il reconnaissait son péché et qu'il s'en remettait à la grâce de Dieu pour échapper à sa colère. Jean-Baptiste savait bien que son ministère était temporaire. Il l'avait dit, il vient après moi quelqu'un d'infiniment plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, et lui ne vous baptisera pas d'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jean-Baptiste était tout à fait au fait. Et il ajoutait, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Imaginez ce qu'a pu être la surprise, l'incompréhension de Jean-Baptiste quand il voit Jésus arriver près de lui et demander son baptême. Jésus, le seul qui n'est pas péché, demande à être baptisé du baptême de repentance. Lui qui est appelé à devenir infiniment plus éminent que Jean-Baptiste, accepte de se mettre sous le magistère de Jean-Baptiste, de lui prêter allégeance. Jean-Baptiste ne peut pas comprendre. Cet acte est tellement inattendu, contre la nature des choses telles qu'il les imagine. Et en fait, quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est en quelque sorte à l'apogée de son ministère. C'est le point culminant. Et on voit d'ailleurs que par la suite, eh bien, Jésus va effectivement devenir beaucoup plus en vue que Jean-Baptiste lui-même dans le pays d'Israël. Alors, comment comprendre que Jésus vienne se faire baptiser du baptême de repentance? Les commentateurs ont posé beaucoup de questions à ce sujet, mais j'aimerais souligner toutes choses qui me paraissent importantes. Quand l'homme reçoit le baptême de Jean-Baptiste, il montre son acceptation de la mort au péché. Il accepte d'être mort au péché. Et Jésus, quand il reçoit le baptême de Jean-Baptiste, il accepte de mourir, non pas au péché, parce que lui-même n'est pas au péché, mais il accepte de mourir pour le péché des hommes. Et l'acceptation du baptême de repentance pour le péché est en quelque sorte l'acceptation par avance de la mort à la croix qui sera l'acte définitif, ultime, où Jésus prendra la mort, la victoire sur la mort, et il prendra cette victoire sur la mort au nom de tous ceux qui lui feront confiance pour être eux-mêmes délivrés du péché et de la mort. Donc, la première signification que je vois à ce baptême, c'est celle-là. C'est l'acceptation de Jésus de mourir pour le péché. Pour le péché de ceux qu'il a aimés, de ceux pour qui il est venu, il s'est incarné pour vivre parmi nous. Et puis, la deuxième raison, c'est tout simplement l'identification au peuple qui est autour de lui. Il veut prendre sa place d'homme parmi les hommes, et un homme qui ne veut pas dépasser les autres d'une tête. Un simple homme, un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards, est-il dit dans le prophète Ésaïe qui annonçait la venue du Messie. Il endosse la condition humaine dans la plus parfaite humilité. Et Jésus prie alors qu'il est dans l'eau. Il prie. Il cultive cette relation avec son Père. Et l'évangile de Luc est particulièrement insistant sur cette relation de prière que Jésus avait avec son Père. À 8 reprises, dans des circonstances variées, on voit Jésus prier et cultiver cette relation avec son Père. Au fur et à mesure des événements, il était, comme j'ai dit, dans un tourbillon, bousculé de toutes parts, bousculé par les amis et les supporters, et bousculé par les ennemis. Et il avait besoin de garder la paix dans son calme, de garder la paix dans son cœur, et de pouvoir garder la maîtrise de ses paroles, de ses relations avec les autres. Et c'est dans cette... Et Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un, et sans lui, on ne peut rien faire, ni lui, ni nous. Et c'est dans cette relation intime avec son Père que le Saint-Esprit lui fait la grâce de descendre sur lui. Le Saint-Esprit s'approche et le couvre. Et le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre des cieux. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection, toute ma joie, toute mon approbation. On mesure combien ce témoignage était capital pour le ministère, pour affronter les défis à venir, dans le feu de l'action, dans les mauvais jours que le Seigneur aurait à traverser. J'aimerais rassembler ce bouquet des éléments qui en quelque sorte, donne à Jésus la force pour affronter les défis à venir. L'humilité, profonde humilité. Il n'a pas cherché à se distinguer, à se mettre au-dessus. Considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Jésus l'a vécu lui-même alors qu'il venait des cieux. L'humilité, la relation de prière avec son Père, la présence du Saint-Esprit, l'assurance d'être aimé et approuvé de son Père. Voilà ce qui lui donne l'équipement intérieur pour aller plus loin. Et la troisième étape, eh bien, c'est la tentation. Ce temps, là aussi, on se pose des questions, mais pourquoi le Seigneur a été baptisé? J'ai tenté d'y répondre. Pourquoi le Seigneur a-t-il été tenté? Lui qui est Dieu, lui qui ne peut pas pécher. Jésus vient de faire une expérience unique lors de son baptême. On vient de le voir. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre côte à côte ces deux textes, le baptême et la tentation. L'expérience qu'il vient de faire est unique, extraordinaire, enthousiasmante. Le Saint-Esprit l'a couvert. On se dit, on imagine volontiers que l'étape suivante, c'est un démarrage en fanfare de son ministère, avec des miracles extraordinaires. Par exemple, changer l'eau en vin. C'est effectivement ce qu'il fera, mais un peu plus tard. On n'imagine pas que ce Saint-Esprit qu'il a couvert l'emmène dans le désert. Et l'emmène dans le désert pour y être tenté par le diable. On n'attend pas cela du Saint-Esprit. Et pourtant, nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées. Ça nous arrive aussi d'être conduits dans des lieux désertiques, parfois dans nos vies, avec des difficultés, des tentations, des faiblesses. Le chemin du Seigneur n'est pas forcément le plus court, le plus simple, le plus direct à nos yeux. Et cependant, restons assurés que ce chemin reste le meilleur pour nous. On peut mettre la tentation de Jésus en parallèle avec celle d'Adam. Il n'y a pas beaucoup de situations. Le diable est présent partout dans l'Écriture, mais le face-à-face avec le diable est relativement rare. On le voit dans la Genèse, avec Adam, on en a parlé tout à l'heure. On le voit ici, avec Jésus. Et ce simple fait, déjà, crée un rapprochement. Dans le jardin d'Éden, c'est pareil, Adam a été confronté à la tentation. Il a sombré, mais ici, le nouvel Adam ne succombera pas. Et il va remplir de façon parfaite la mission qui lui a été confiée. On peut mettre aussi cette tentation de Jésus en rapport avec la tentation d'Israël dans le désert. Il suffit là de voir la manière dont Jésus répond au diable. Il répond par trois textes, trois versets de l'Ancien Testament et qui se trouvent groupés dans le livre du Deutéronome, entre les chapitres 6 et 8, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'était à l'occasion des murmures du peuple qui rouspétaient parce qu'ils n'avaient pas de pain. Dieu leur a fait grâce, leur a donné la manne, mais il leur a rappelé que la manne n'était qu'un signe de quelque chose de beaucoup plus grand. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Bien. Et puis, un autre épisode, le veau d'or. Ils ont adoré le veau d'or. Et Dieu dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et puis, troisième épisode, c'est le rocher de rêve. Là encore, ils ont rouspété, ils avaient soif. Et il est dit à ce moment-là qu'ils ont tenté Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, tenter Dieu? Bien, l'Ancien Testament nous apporte une petite explication sur cette expression de tenter Dieu. Ils avaient tenté l'Éternel, je lis dans Exode au chapitre 17, ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? C'est ce que l'Écriture appelle tenter Dieu, s'exprimer de cette sorte, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? En quelque sorte, s'il est au milieu de nous, qu'il donne des preuves, qu'il donne ses preuves. Et on voit Moïse frapper le rocher une fois, deux fois. D'ailleurs, le Seigneur a repris Moïse à ce sujet parce que son geste, pour nous il est un peu difficile de le saisir, mais comprenait une part de doute quant à la puissance de l'Éternel. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Qu'il le prouve. Jésus, face au diable et aux trois formes de tentation qu'il a subies, a répondu par ces textes de l'Ancien Testament. Donc, il y a un parallèle fort entre la tentation d'Israël dans le désert et la tentation de Jésus. Mais, je vais encore ajouter une chose, c'est que quand on lit cette tentation de Jésus, on voit que le diable ne cherche pas à faire tomber Jésus dans des péchés qui nous paraissent à nous grossiers. La méchanceté, le vol, le mensonge, l'immoralité. D'ailleurs, ce sont des choses qui sont dénoncées dans les 10 commandements. Mais c'est beaucoup plus subtil. La tentation du diable vis-à-vis de Jésus consiste simplement à soustraire Jésus de l'influence de son père et de le faire agir comme un être autonome qui poursuit l'objectif de ses besoins, de ses envies et de la manière dont il conçoit lui-même les choses. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, c'était bien mieux, là aussi, ce n'était pas des péchés a priori grossiers que le diable voulait suggérer, mais l'amorce d'une prise de distance avec le Créateur et le Seigneur. Et ça suffit pour en arriver au dérèglement dont je parlais, dérèglement du monde et dérèglement de tous les humains. Mais ce que j'aimerais surtout souligner dans le texte de cette tentation, c'est moins le parallélisme avec les épisodes anciens que le parallélisme avec ce qui allait arriver dans les 3 années à venir de son ministère. Et ce parallélisme est frappant. Tu as faim? Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Mais produire du pain, Jésus va le faire dans son ministère, de façon extraordinaire, de façon frappante. Il va multiplier du pain pour nourrir une foule, transformer des éléments en l'autre. Il a transformé de l'eau en vin. Donc, le Seigneur a accompli le type de miracle dont le diable voulait le tenter. régner sur le monde. Le diable lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai le pouvoir sur le monde. Mais Jésus, quand il est arrivé, quel a été son message au départ? Repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché. Mais qui est le roi de ce royaume? C'est lui. Même si il le dit d'une façon discrète, voilée, le royaume de Dieu s'est approché, il est parmi vous. Et d'ailleurs, à la fin de l'évangile de Matthieu, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un roi s'il est doué de tout pouvoir dans les cieux, sur la terre? Donc, avoir l'autorité, le pouvoir sur tous les royaumes de la terre, mais Jésus il était venu pour ça. C'était ça, le sens de sa mission. Et puis, si tu es fils de Dieu, mais jette-toi en bas du temple, le Seigneur te tiendra sur les bras et te protégera. Mais le Seigneur a pratiqué des miracles extraordinaires, et même des miracles pour se protéger face à la tempête, quand il était dans une barque secoué par la tempête, il a calmé la tempête. Il a marché sur l'eau. Donc le Seigneur a accompli des miracles pour sa protection et pour la protection de ses proches. Mais alors, le diable, il est exactement dans le droit fil de la mission de Jésus. Seulement, c'est pas... En quelque sorte, le diable a saisi des éléments que Dieu avait assignés au ministère de Jésus, mais il en dénature l'esprit, il en dénature l'objet, il en dénature les moyens, il en dénature les motivations profondes. Et c'est d'autant plus subtil que la tentation de Jésus, pas le diable, prend tous les aspects d'une vie qui serait en ordre avec le Seigneur, qui obéirait à son projet, qui entre dans son plan. Alors, on peut se demander, le diable parle à Jésus, mais comment il lui parle? Il lui parle avec sa bouche? Pourquoi pas? Moi, j'aime le voir parler, le diable parler au Seigneur en insinuant des pensées, ses pensées, dans l'esprit du Seigneur. Parce qu'en tout cas, je ne sais pas comment le diable vous parle à vous aujourd'hui, mais moi c'est comme ça qu'il me parle. En insinuant des pensées étrangères au Seigneur dans mon esprit. Je vois la tentation du Seigneur comme un combat du Seigneur à l'intérieur de lui-même, en son fort intérieur, dans ses propres pensées, où il est assailli par la pensée de faire un miracle pour satisfaire ses besoins corporels, de faire un miracle pour de prendre le pouvoir sur les royaumes de la terre, de se mettre à l'abri des dangers encore par la puissance de Dieu et des miracles, j'imagine une insinuation subtile, perfide, à l'intérieur des pensées de Jésus. Et Jésus avait entendu cette parole qui venait du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et en écho, il entend de la part du diable, si tu es fils de Dieu, si tu es. Il venait d'entendre cette affirmation, cette approbation extraordinaire de Dieu. Et les circonstances ont changé, il est maintenant dans le désert face aux difficultés, il a jeûné, il a faim, il est affaibli. si tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est l'insinuation du doute. T'es peut-être pas, t'as peut-être mal entendu. T'es pas fils de Dieu comme tu pensais l'être. Ou bien c'est un défi. Si tu es fils de Dieu, alors prouve-le. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire, si tu es fils de Dieu, c'est pas normal que tu vives les difficultés que tu es en train de vivre. C'est pas normal. Et c'est quelque chose que l'on entend facilement, nous aussi. Nous avons reçu ce témoignage de l'Esprit Saint, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous aussi, on a entendu cette voix intérieure que nous sommes enfants de Dieu. Mais au jour de la difficulté, dans le désert, face aux contrariétés, si, est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que c'est normal que tu traverses ces difficultés, ces faiblesses, que tu commettes encore des péchés, que tu donnes une piètre image de ce que devrait être le fils de Dieu, un enfant de Dieu? Et puis, l'autre type de tentation, par deux fois il dit, hein, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre d'être du pain, jette-toi en bas du temple, deux fois. Et puis, la troisième, c'est, si tu te prosternes, je te donnerai le pouvoir sur les royaumes. C'était la mission de Jésus, c'est pour ça qu'il était venu, Jésus, pour annoncer le royaume et pour établir le royaume. Et c'est comme si Dieu lui disait, mais écoute, ta mission, je vais t'aider à l'assumer. Range-toi de mon côté, adopte mes arguments, mon point de vue. Réfléchis, agis avec les moyens que je te donne. Je vais te donner du nombre, de l'audience, de l'influence, de la réputation, du pouvoir. Nous aussi, nous sommes sensibles à ce genre de discours. Même dans les domaines où c'est la volonté de Dieu que l'on prétend vouloir poursuivre et accomplir. C'est un langage flatteur qui n'est pas fait pour nous déplaire. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour diriger nos vies et accomplir sa volonté. Et le stratagème du diable consiste à faire croire qu'on peut garder les mêmes objectifs louables que Dieu veut, rester dans le plan de Dieu pour nos vies, mais en nous dirigeant par nous-mêmes, selon nos pensées, nos désirs. Et le diable va jusqu'à puiser ses arguments dans la Bible elle-même. Ici, les textes qu'on trouve dans un psaume, pour dire, mais le Seigneur te gardera, te protégera, il mettra ses mains sous toi pour te mettre à l'abri. Et donc, on peut vouloir poursuivre des objectifs qui soient des objectifs voulus de Dieu. On peut le faire avec le soutien même et l'argumentation biblique, mais on n'est pas forcément dans le droit fil de la volonté, de la pensée de Dieu pour autant. Et cette forme de la tentation de Jésus en donne un exemple. Alors, ces 40 jours de tentation, il faut les voir comme une préparation au combat à venir, au combat que le Seigneur aurait à mener dans les 3 années qui étaient devant lui. Vaincu par le diable, vaincu par Jésus, le diable ne capitule pas. Il est dit, le diable s'en alla jusqu'à un moment plus favorable. Et des moments favorables, il en a eu bon nombre au cours du ministère de Jésus. Et ces tentations que le Seigneur a vécu dans son désert intérieur, dans son fort intérieur, dans ses pensées où le diable venait insinuer ses arguments, eh bien, ces mêmes tentations, il les a vues réapparaître tout au long de son ministère. Et je reprends les trois types. Mais à plusieurs reprises, il a refusé de produire un miracle qu'on lui réclamait. La foule disait on mange encore du pain, on en a eu, on en a encore. Les chefs ont dit mais quel miracle nous montres-tu pour que nous croyions en toi? Et Jésus a refusé tout miracle. Autant il a multiplié les pains, il a transformé l'eau en vin, mais lorsque il savait discerner les intentions du cœur de ceux qui lui demandaient le miracle, il savait aussi quelle était sa mission fondamentale aux yeux du Seigneur. Il a refusé à plusieurs reprises de faire le miracle qu'on lui réclamait. Après un miracle de multiplication des pains, il est dit que la foule était enthousiasmée, ils ont voulu le prendre pour le faire roi. Ah ben, c'était aller tout droit au but que le Seigneur lui avait assigné dans son ministère ici-bas. Le peuple voulait le prendre pour le faire roi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soustrait à la foule et il s'est isolé. Seul sur la montagne, pour échapper à une destinée qui aurait paru conforme à sa mission, mais qui n'était pas du tout dans l'esprit qui était conforme à l'esprit que le Seigneur voulait pour la manière de mener son ministère. Et puis, de façon encore plus terrible, des miracles pour se protéger, il en a fait, on en a parlé. Mais quand il était sur la croix, les gens autour de lui disaient « Mais si tu es fils de Dieu, encore, si tu es fils de Dieu, descends de ta croix. » Il a dit qu'il pouvait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Ben, prouve maintenant que tu le peux. C'était sa sécurité, c'était même sa vie qui était en jeu. Et il a refusé de faire ce miracle à son avantage. Donc, on comprend combien l'œuvre, l'action, les pensées de l'ennemi qui cherche à nous tenter sont subtiles. Parce que une même chose peut avoir lieu dans un cadre et la même être refusée dans un cadre différent. La question est de savoir quel est, dans tout ce que nous faisons, quel est le degré de relation, l'authenticité de la relation que nous avons avec le Seigneur. Et c'est ça que l'adversaire cherche à mettre en péril. Donc, ce temps, ces 40 jours, j'ai dit, c'est 40 jours d'épreuve pour préparer la vie. Et je crois que le Seigneur nous donne aussi à nous-mêmes de réfléchir en notre fort intérieur, d'avoir cette réflexion nous-mêmes comme Jésus l'a eu pendant 40 jours. Ce travail sur les pensées où nous sommes tentés de prendre des raccourcis pour aller plus vite au but. Et puis aller plus vite au but, souvent, c'est plutôt dans le sens de nous satisfaire nous-mêmes plutôt que de répondre pleinement à l'appel de Dieu et au plan de Dieu. Faire ce travail dans le profond de notre cœur pour pouvoir faire face au jour où l'épreuve arrivera, nous emportera si nous n'y sommes pas préparés par avance. Alors, on ne peut pas tout prévoir, il ne s'agit pas de tout prévoir, de tout anticiper. on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et il ne s'agit pas d'anticiper des choses qu'on ne connaît pas. La seule chose que nous puissions faire, c'est nous préparer, rester en forme spirituelle, en bonne santé spirituelle, pour être en mesure de faire face au jour où les difficultés arrivent à l'improviste et surprennent celui qui ne s'y est pas préparé. J'aimerais lire en conclusion ce texte qu'on connaît bien de l'Épître aux Philippiens, où il est parlé de l'humilité de Jésus, qui est vraiment à la base de son attitude avant qu'il n'entre dans le vif du sujet, avant qu'il ne se jette à l'eau de son ministère. Et c'est un texte, donc Philippiens 2, au verset 3 à 11, c'est un texte qui nous parle de l'humilité de Jésus, mais qui nous parle aussi de la manière dont nous-mêmes avons à nous inspirer de cette humilité, d'en vivre. Et j'aimerais souligner que Jésus, en tout cela, il n'est pas simplement un magnifique exemple, et c'est vrai que c'est un exemple qui nous encourage, qui nous instruit, qui montre la voie. Il est non seulement l'exemple, mais sa vie même est notre force. Sa vie, nous sommes héritiers, nous sommes dans la généalogie, héritiers des promesses qui sont en Christ, et que Christ, la victoire que Christ a assurée dans la tentation, puis dans sa mort, cette œuvre, cette victoire, le Seigneur l'a acquise pour nous. On a parlé du baptême, il est mort pas pour comme acceptation de la mort à ses péchés, mais comme acceptation de la mort pour le péché de chacun. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. On a l'humilité, l'abaissement extrême, et la gloire ultime. Mais la gloire que nous ne décrochons pas par nos propres qualités humaines, mais la gloire que le Seigneur donne. Comme Dieu a élevé son Fils à la gloire, Jésus a dit : je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Nous sommes ceux qui ont été donnés à Christ, et le Seigneur veut que nous soyons aussi dans cette gloire, mais une gloire qui passe par un chemin qui n'est pas celui que nous imaginons forcément, pas celui qui nous plaît le plus, pas celui qui nous paraît forcément le plus logique, mais celui que le Seigneur veut. On peut prier. Oui, Père Céleste, nous te bénissons parce que nous reconnaissons que dans ce monde tellement bousculé par le péché, ravagé par le péché des hommes. Tu es venu habiter parmi nous. Tu as revêtu notre condition, la personne de Jésus. Tu as accepté le sacrifice de ta vie. Et nous sommes libérés du péché, assurés de l'éternité. Nous présentons devant toi afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie, vivre sur ton exemple. Tu nous invites à garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez notre cœur. Que, Seigneur, tu nous aides à faire ce travail dans nos pensées, par l'œuvre du Saint-Esprit et par la puissance de ta grâce. Amen.